Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe dans la Meuse, chère à Charles Péguy. Elle n'est pas très poétique, quoique assez romanesque. Elle est relatée par l'Est républicain. Nous sommes à Vaucouleurs, dans un appartement habité par deux colocataires, un jeudi de printemps. Tout part d'une histoire de ménage, de celle qui empoisonne les couples et les colocs, de ces détails qui s'accumulent, n'est-ce pas, et viennent à bout de l'amitié ou de l'amour. Ils ont 30 ans et ne sont pas particulièrement maniaques. Mais la limite est franchie le jour où l'un des deux cohabitants tombe malade et cesse carrément de ranger et de faire le moindre ménage. L'autre s'agace alors sans grande pitié et somme son partenaire de nettoyer sur le champ. Ils entreprennent donc tous deux un grand ménage, sauf que l'un des deux colocs est vraiment en petite forme et y va mollement. Rapidement, le manque d'ardeur à la tâche de l'un agace franchement l'autre. Jusqu'à ce que le trentenaire, écrit le quotidien de l'Est, s'énerve, frappe le colocataire au visage et d'un coup de genou au ventre. Le malade fait un malaise et quelques minutes plus tard, il est mort. Au lieu d'alerter les secours, le premier Val-Colleroy, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Vaucouleurs, descend le corps du second dans la cave de l'immeuble et le dissimule sous l'escalier après l'avoir recouvert de quelques vêtements. Et puis, il s'en va dormir chez son frère, soit parce qu'il y avait vraiment trop de bazar dans l'appartement, soit parce qu'il ne se sent pas de revenir sur les lieux. Quelques jours plus tard, il se rend au commissariat pour tout avouer. L'article précise que les deux hommes étaient connus pour leur consommation de stupéfiants, mais ne dit pas si le juge a considéré que le ménage, mal ou pas fait, était une circonstance atténuante pour avoir frappé à mort son coloc. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, cohabiter, trois autres histoires de cohabitation, plus ou moins gaies et plus ou moins réussies, par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Claude Moussard. La première histoire d'hospitalité, c'est il y a quasiment 45 ans, sur la route. Ça a commencé sur la route, entre Orléans et Paris. Moi, j'étais enseignant, je commençais à être enseignant à l'université Paris 8, à Vincennes à ce moment-là. Et donc, on allait à Vincennes, à l'université, en voiture. Et on a vu ce gars, on ne voyait même pas qui c'était, il était sous la pluie avec une espèce de capuche. Il pleuvait, et donc c'était une des raisons, pas la seule, mais de s'arrêter, de le prendre en stop. On n'allait pas laisser ce gars sous la flotte comme ça. Donc, on l'a pris en stop. C'était un Africain, un Ivoirien. On a discuté tout le voyage, on a mangé des trucs. Et puis, on lui a proposé de le ramener le soir, puisqu'il devait rentrer le soir, il allait à Paris pour une histoire de papier. Et on est rentrés ensemble. Et vers 9 ou 10 heures du soir, je lui ai dit que s'il avait un problème, il pouvait toujours venir chez nous. Alors je lui ai donné notre adresse, et je lui ai dit, voilà, vous pouvez. Et le lendemain, à 9h, il avait un problème, et il était chez nous. C'est comme ça que ça a commencé. Le problème, c'est qu'en effet, il avait besoin d'être hébergé, parce qu'il dormait plus ou moins dans la chambre d'un copain, qu'il l'avait foutu dehors, voilà. Et c'est la première histoire d'hospitalité. Il s'appelait Ibrahim, et il nous racontait sa vie. Il nous a montré les traces de coups qu'il a reçus, des choses comme ça. Voilà. Il nous parlait de sa vie dure, violente, tout son trajet, et tout ça, il en parlait. Ouais. Mais je ne me suis pas occupé des papiers d'Ibrahim. À ce moment-là, les choses n'étaient pas si compliquées. C'était beaucoup plus facile. Et à un moment, il a décidé, par toutes sortes de connexions qu'il avait au fil de quelques mois, il a trouvé du travail en Allemagne. Il est revenu deux fois, tout d'un coup, et j'avais plus de numéro de téléphone, et après on s'est perdu de vue. Ouais. Oui, je suis peut-être un peu cinglé là-dessus, mais moi j'ai jamais eu de problème à cohabiter comme ça. Non, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je vois pas le problème. Mais c'est pas de la pitié, c'est vraiment, je voyais pas pourquoi, ce serait toujours pareil aujourd'hui, je laisserais ce gars dehors si je peux, matériellement, lui faire place. Je vois pas. Alors, il y a eu une situation toute différente. Donc c'était au moment des Khmers rouges au Cambodge. Un appel est paru dans Libération demandant aux personnes qui pouvaient héberger des Cambodgiens qui avaient fui. Et Hélène et moi, on a envoyé notre adresse. Hélène, c'est ma femme. Donc on a vu arriver, peu de temps après, un Cambodgien. Il était dans un état physique épouvantable. Il me faisait penser à un de ses oisillons tombé du nid, tout violacé. Il était dans un état épouvantable. Et puis donc, il a vécu chez nous quelque temps, j'ai oublié combien de temps maintenant. On l'appelait Kim. Et ouais, on est devenu très, là aussi très, très proche. Alors lui, c'est une anecdote, mais ça nous fascinait. Il se faisait sa cuisine. Il était maigre comme un, bon, c'était les Khmer Rouges et toutes les conséquences. Il avait fui vers le Laos et dans des conditions épouvantables. Il était famélique, mais il avait très faim. Il voulait manger. Il se faisait des plats dans la cuisine, il se faisait des plats invraisemblables et il a mangé beaucoup. Et ensuite, la même institution qu'il avait amené chez nous nous a demandé si on pouvait accueillir un second Cambodgien. Et là, on a dit, ben non, c'est beaucoup, on n'a pas beaucoup de place, la maison, le logement était petit. Alors, j'ai demandé à mes parents. Mes parents, c'était pas leur genre tellement, quoi. Ils avaient une petite maison qu'ils s'étaient achetée pour leur retraite. Ils étaient des retraités français très, très, très moyens. Et je leur ai demandé s'ils l'accueilleraient. Et puis, à ma surprise, ils ont dit oui. Donc, il y a un autre Cambodgien qui est arrivé. Et je me souviens qu'il a vécu chez mes parents. Ma mère, je me suis dit, elle est amoureuse de lui. Elle l'adorait. Et j'étais jaloux. Elle faisait tout pour lui. Ah, ça a été vraiment... Et puis, ce Cambodgien, il a fondé une famille à Orléans avec d'autres Cambodgiens. Il a fondé une famille, il nous a invités chez lui, on est allés chez lui, etc. Et puis, ma mère, au fil de temps, ça a duré plusieurs années, ça. Ma mère a eu la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle a été placée dans une institution, non loin de chez moi, d'ailleurs. Et j'y allais, je sais pas, trois fois par semaine. Et un jour, les gens de l'institution m'ont dit, mais c'est drôle, il y a un Asiatique qui vient la voir. Et c'était lui. Mais il ne nous l'avait jamais dit, il ne faisait pas valoir. Il venait anonymement, doucement, comme ça. J'ai trouvé ça merveilleux. Il ne s'est pas vanté de faire ça. Il ne nous a pas dit, ah tu sais, je m'occupe de ta mère et tout. Non, pas du tout. Il y a eu une autre aventure d'hébergement qui a débuté sur les bords de la Loire. Nous habitons tout près de la Loire. Et un jour, Hélène, ma femme, qui était à la municipalité d'Orléans et adjointe au maire, enfin, qui a eu des fonctions, elle est connue à Orléans, elle a été contactée par une association qui venait de découvrir des gens, essentiellement pour la plupart des Africains, égarés, vraiment, et se cachant quasiment dans les broussailles d'un endroit au bord de la Loire qui était à découvert, où il y avait des petites cabanes de jardiniers, ils cherchaient à trouver abri là-dedans. Enfin, c'était dans un état lamentable. Et on y est allé, donc Hélène et moi. On a parlé avec eux, et deux d'entre eux nous ont demandé de les emmener chez le médecin, un dimanche. Ce qu'on a fait, enfin... Et puis on les a quittés en leur laissant un peu d'argent, et puis c'est tout. Et on a perdu contact. Et puis, deux ans plus tard, ma femme a été abordée dans la rue par un des deux qu'on avait emmené chez le médecin. Et il lui a juste laissé un numéro de téléphone, le numéro de téléphone d'un copain, lui n'ayant pas de téléphone, le numéro de téléphone d'un copain qui était étudiant, soudanais comme lui. Et le lendemain, j'ai appelé à ce numéro de téléphone. Il avait laissé son numéro de téléphone, c'est qu'il avait besoin de quelque chose. S'il avait laissé son numéro de téléphone, c'était un appel. Et ça, un appel, je n'aurais jamais laissé inentendu. Donc, j'ai pris des rendez-vous, on s'est vus, 4-5 fois au café. J'ai fait des courses avec lui, je lui ai acheté des trucs, mais il dormait dehors à ce moment-là, il n'avait plus aucun endroit. Et il y a eu un moment, je me souviens, un matin, un studio s'est libéré, dans la partie attenante, dans la partie qui était l'héritage de ma femme, qu'on ne loue absolument pas, évidemment, était gardé pour héberger. Et je me souviens, le matin, Hélène m'a dit, m'a regardé sans qu'on me parle, elle m'a dit, je sais bien ce qu'on va faire. Et en effet, j'ai pris rendez-vous avec Karen. Et non, mais tout d'un coup, je lui ai dit, ben voilà, viens avec moi, depuis ton copain, et puis venez, je vais vous montrer quelque chose. Son copain, lui, avait un logement, mais Karen, rien. Et on est venu ici, et on est allé à ce studio. Donc, encore une fois, il parlait très peu le français, c'était son copain qui traduisait. Et j'ai dit, voilà, il peut habiter là, quoi. J'ai dit au copain, il peut habiter là, maintenant. Je me souviens que la première chose qu'il a dite, il a dit, mais je peux pas payer l'eau, je peux pas payer l'électricité. Il a dit ça tout de suite. C'est la première chose qu'il a dit. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, c'est pas la question. Bon, il a pleuré. Je le vois comme si ça, ce moment-là, ça a été... Ouais. Je sais pas, c'était comme un pacte profond contre humain, quoi. Un pacte, vraiment. Qu'on ne se lâcherait plus. Qu'on ne se laisserait plus. J'en étais sûr et c'était le cas, jusqu'à sa mort. Et c'était une joie pour moi de... Par exemple, Khaled, qui a vécu chez nous pendant 8 ans... on marchait dans la rue ensemble, on allait au bord de la Loire ensemble, on était avec, on revoyait les lieux où il avait vécu quand il était dehors tout seul, comme il faisait du bricolage dans la maison, parce que c'est lui qui en décidait, moi je lui ai jamais demandé, il allait à Bricorama, je le conduisais en voiture, c'était moi le je poussais le chariot pendant que lui discutait avec les gens, parce que moi j'étais totalement nul, et voilà, donc on disait... On y avait Bricorama, Castorama, Conforama. On allait dans les ramas de merde, voilà ce qu'on disait. On allait faire des tournées dans les ramas de merde. Et on se marrait. Mais c'était lui le chef, hein. Moi, j'obéissais comme ça. Mais je me souviens, une des premières fois où on est allé dans un rama, comme ça, en voiture, il était joyeux. Et je me souviens, on est monté dans la voiture, et tout d'un coup, il a crié comme ça, mais avec joie, il a dit « à la maison ». Et je me suis dit, ça, c'est gagné, vraiment. À la maison, vous voyez. Voilà. Il a eu plusieurs emplois, menuiserie, jardinage. À un moment, il a travaillé pour la municipalité. Il a travaillé sur les berges de la Loire, là, justement. Il a fait ça aussi, oui. Et un jour, alors qu'il avait déjà plusieurs années de papiers, il est retourné 2 ou 3 fois au Soudan. Il avait un passeport, etc. C'est important, le passeport, parce que c'est ce qui lui permettait de rentrer au Soudan, s'il le voulait. Sans ça, il pouvait pas rentrer au Soudan. Il ne pouvait pas revoir sa famille. Donc il est reparti plusieurs fois, je sais plus, je crois que c'est 3 fois en fait, je sais plus très bien. On se téléphonait régulièrement, il m'appelait du Soudan. Et puis un samedi après-midi, coup de téléphone, et j'entends sa voix, et il me dit, allô, c'est Khaled Mansour. Et il me dit, j'arrive, et il était fou de joie. Bon, on est monté dans son studio, et... Il m'a appris qu'il venait de se fiancer au Soudan. Donc, on était heureux, c'était formidable. Et puis, le dimanche, le lendemain, il est arrivé, je sais pas, il était peut-être 9h du matin, et il est arrivé dans notre partie à nous, de l'habitation. Et il m'a dit, Claude, je me sens pas bien. Je lui ai dit, Khaled, il me dit, j'ai mal, et il m'a montré le niveau de son estomac. On est remonté dans son studio et je lui ai apporté une tisane. Au moment où je lui donnais la tisane, il s'est effondré. Il est tombé dans mes bras, ses yeux se sont révulsés. Il a eu des symptômes que moi j'ai cru être ceux d'une crise d'épilepsie. Et en fait, c'était les symptômes d'un infarctus. Voilà. Après, j'ai hurlé dans la cage d'escalier, qu'on appelle les secours, qui sont arrivés très vite, je veux dire. J'ai passé, je sais pas, 3 heures sur le palier. Ils ont essayé de le ranimer, de relancer le cœur. Même ma femme est venue aussi. On était là sur le palier. J'ai passé 3 heures là, atterré, quoi, quand même. Atterré, oui. Et puis, au bout de 3 jours, il est mort, oui. On m'a téléphoné. Il venait de mourir. Oui. On s'occupait du rapatriement de son corps avec la communauté soudanaise musulmane. Oui. Il a été rapatrié. C'est tout de même quelquefois compliqué, hein, et d'être avec des gens avec lesquels on n'est pas prévu d'être avec. Et ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. C'est quelquefois presque dangereux, si on veut, mais c'est absolument positif. C'est une des parties de notre vie que je trouve, notre vie familiale, hein, je parle aussi de mes fils, que je trouve essentielle. Vivre avec d'autres vies, oui. D'autres vies qu'on n'était pas fait pour rencontrer. Notre vie dont il n'était absolument pas prévu qu'on les croiserait.
France Culture, les pieds sur terre. Je m'appelle Elsa et en 2015, donc j'avais 23 ans, j'ai dû déménager à Lyon pour mes études d'art. Et du coup, il fallait que je trouve un logement, donc je suis tombée sur l'annonce de Tamara, qui cherchait une nouvelle colocataire. Et quand je l'ai vue la première fois, elle avait l'air vraiment très gentille, très aimable, elle avait une voix très douce. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ça a vraiment donc commencé à être insupportable quand elle faisait plus la vaisselle. Pour moi, c'était très difficile d'avoir quelque chose de propre. Et en fait, quand je lui disais « Ah, il faudrait que tu fasses la vaisselle et tout, parce que j'aimerais bien utiliser les casseroles », elle le faisait un peu, mais si je lui redisais pas, elle le faisait pas spontanément. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui dire. Et ce que je faisais, c'est que je mettais de côté mes propres casseroles, les assiettes, tout ça, dans mon placard, dans ma chambre, propre, pour être sûre d'en avoir une quand j'avais envie de cuisiner. C'est un peu bizarre. Et puis après, il y a un moment où aussi, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'en gros, elle arrive toute paniquée. « Oh Elsa, regarde tout ce qu'on a dépensé en facture d'eau. » Il y avait une très grosse facture d'eau. Et en fait, je pensais que c'était de ma faute. J'avais peut-être laissé couler un robinet sans m'en rendre compte. Donc j'étais à mince. « Désolée, on fera moitié-moitié, t'inquiète. » Mais en fait, on s'était rendu compte qu'elle m'avait fait payer sa facture d'eau à elle. Puisque en fait, c'est d'une année sur l'autre. Quand ils font une facture, c'est la facture de l'an dernier, le bilan de l'année dernière. Donc elle m'avait fait payer sa facture d'eau. Bien sûr, elle l'a jamais remboursé parce qu'après, du coup, elle a sorti la carte de la fille misérable qui avait pas d'argent. Et c'est vrai qu'elle manquait d'argent, mais le problème, c'est qu'elle gérait tellement mal son argent qu'elle faisait des Deliveroo, mais à côté, elle me volait mes courses parce qu'elle avait pas à manger ou elle avait la flemme de faire à manger, je sais pas. Et elle, elle achetait tout le temps sur Internet, sur les applications là, de livraison à domicile. Et aussi une autre fois qui m'a vraiment... je m'étais vraiment énervée pour le coup. Je rentre, en fait, elle m'avait prévenu que sa mère allait arriver, donc là, elle avait fait grand ménage et tout. Et en fait, j'arrive en rentrant et je vois plein de petits mots partout, plein de post-it. L'eau, ça s'éteint. Ou la lumière aussi, ça s'éteint pour économiser l'électricité. Ou ça, c'est pas ton étagère. Et en fait, sa mère, elle avait viré toutes mes affaires de l'étagère parce que c'était l'étagère de sa fille. Et elle les avait mis dans le couloir. Alors, j'ai pas compris, je me suis énervée, je fais, mais attendez. Enfin, en fait, c'est comme si elle m'incombait les hautes factures d'électricité, les hautes factures d'eau, comme si c'était moi qui faisais les gaspillages, alors que typiquement, Tamara, elle n'éteignait pas les lumières, vu que de toute façon, elle ne faisait pas la vaisselle. Oui, elle ne risquait pas d'utiliser l'eau pour la vaisselle, mais à contrepartie, quand elle faisait des machines, elle laissait tout le temps moisir sa machine. Enfin, elle ne sortait pas, en fait, ses vêtements. Elle laissait ses vêtements 2 jours et après, elle refaisait une machine. Donc, quand quelqu'un fait 3 fois une machine dans la semaine, ça utilise beaucoup d'eau, d'électricité. Mais bon, ça, sa mère, elle ne le savait pas. Je pense pas qu'elle s'amusait à lui dire. Enfin, je bouillonnais à l'intérieur, mais je me contenais parce que j'avais vraiment cette peur de faire empirer la situation. Et typiquement, quand elle avait laissé sa carcasse de poulet pendant 2 semaines sur le bord de la fenêtre, dehors du coup, à l'extérieur, j'avais un peu peur qu'il y ait des asticots qui se propagent ou je sais pas. Et là, c'est vraiment les amis qui étaient venus me voir, qui me disaient « Mais Elsa, mais tu te rends compte, tu peux pas laisser ça là, il faut que ça parte et tout. » J'ai fait « Mais attends, c'est son poulet, tu crois que je vais m'amuser à virer son poulet, quoi ?» Et finalement, elle l'a jeté. Et en fait, j'ai vraiment commencé à avoir du mépris pour elle. Parce que je comprends pas qu'en tant qu'être humain, on n'est pas capable de faire des efforts sur un vivre ensemble aussi primaire que faire sa vaisselle, faire un peu le ménage et pas arnaquer les autres sur les factures. Voilà. Donc oui, au bout d'un moment, j'avais vraiment du mépris. Mais ça, c'était vraiment vers la fin, parce que là, j'en pouvais plus, quoi. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, donc 8 mois, j'ai vécu 8 mois avec Tamara et 8 mois où j'ai haï la colocation. Et c'était du coup vers fin avril. Elle est venue me voir et me dire « Ah, il faut que je te dise, je vais aménager avec mon copain, on a trouvé une maison sympa. Du coup, là, j'étais contente de savoir qu'elle partait et que c'était fini. Thank you.
Je m'appelle Eric et mon histoire, cette histoire, commence avec ma première rencontre avec la japonaise Mariko qui allait devenir la femme de ma vie. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai été persuadé que ce serait elle. Très rapidement, je lui ai demandé en mariage. Très rapidement, elle m'a répondu non. Et pendant 2 ans, elle m'a dit non. Mariko étant peintre, artiste, peintre, maître calligraphe, son projet de vie, c'était de venir 2-3 ans en France pour étudier la peinture occidentale et surtout comprendre pourquoi autant de grands peintres étaient passés par Paris avant de devenir célèbre, ou y était devenu célèbre. Et ses parents l'attendaient après ces 2-3 ans passés en France, puisqu'elle avait décidé initialement de ne pas créer de foyer, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfant, pour se consacrer à la peinture et rester à côté de ses parents jusqu'à la fin de ses jours. Finalement, elle a dit oui et elle a accepté de m'épouser. Ma belle famille est arrivée dans les jours qui ont précédé le mariage de Tokyo. C'est la première fois qu'ils venaient en France. Et mes beaux-parents m'ont fait l'effet, pendant ces premiers jours de contact quotidien, de personnes extrêmement sérieuses. On avait beaucoup de difficultés à communiquer. Ils ne parlaient pas français. Donc on communiquait par dessin, souvent. J'avais essayé d'apprendre quelques mots de japonais, mais franchement, ça donnait pas grand-chose. Et comme ils ont fait tout ce chemin depuis Tokyo, c'était à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi pour eux, de venir jusqu'en France, et que le voyage de noces allait suivre, il me paraissait difficile de les renvoyer à Tokyo pendant que nous, on partait en Grèce et en Italie. Donc finalement, on les emmenait avec nous pendant le voyage de noces. Voilà. Quelques mois se sont passés. La deuxième occasion d'échange approfondi a eu lieu lors de notre premier voyage au Japon, où moi et Mariko sommes allés à Tokyo et avons été accueillis dans la maison familiale où Mariko était quasiment née. Et là, clairement, j'ai compris ce que c'était qu'un choc culturel. Voilà. Moi, j'ai un tempérament un peu méditerranéen, un peu du sud, un peu extraverti. Et j'avais en face de moi donc des personnes pour lesquelles les relations sociales sont des choses extrêmement cadrées. Alors, pour situer quelques données de base, bon, on dormait dans un tatami, dans un futon. On dormait dans la pièce qui était réservée à l'hôtel bouddhique, l'hôtel familial bouddhique. Et cette pièce était séparée du reste par une simple cloison de papier. Et donc, le moins de bruit, le moins de chuchotement était entendu, évidemment, de manière... pouvait être entendu de manière assez large, en tout cas. Et puis le premier matin, par exemple, il y avait cette odeur dès 6h30, 7h du matin, du poisson, cette odeur de poisson cuit, frit. Alors, en tant que Parisien, nourri steak frites midi et soir dans le restaurant familial, déjà je n'aimais pas le poisson, mais alors le matin à 7h, c'était juste insupportable. J'en pouvais plus et il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger. Ma belle-mère a fait un effort. Et donc, elle a réussi à dégoter du pain et même un brie, enfin un carton sur lequel il y avait marqué brie, pour me nourrir un peu, quoi. Le matin, j'ai beaucoup remercié, j'ai beaucoup de reconnaissance envers elle d'avoir fait cet effort. Et le brie, ben le pauvre, effectivement, il y a une boîte en carton, mais dans la boîte en carton, il y avait une conserve. Et le pauvre brie était mort de chez mort. Il n'avait strictement plus aucun goût. Je savais même pas qu'on pouvait avoir du fromage en boîte. Voilà, ben, j'ai découvert ça à Tokyo. Voilà, donc c'est pas facile. Et il s'est passé en fait ensuite beaucoup de temps avant que je retrouve mes beaux-parents. En 1994, on a eu notre fils et ils ont pris l'habitude de venir presque chaque année nous rejoindre. Et chaque été, quasiment, nous avons passé 3 mois, parfois 6 mois, ensemble, à cohabiter. Alors il y avait de très nombreuses tensions. Je me souviens d'une fois où j'avais vraiment positivement énervé ma belle-mère et sa colère s'est exprimée sous une forme assez étonnante. C'est qu'elle a pris un seau, elle a pris une éponge récurrente et elle s'est mise à nettoyer le sol en bois du salon avec une énergie frénétique. En parlant en japonais, sans s'interrompre, je comprenais rien. Des mots, mais l'état de vie, ça, je l'avais bien compris. Et en fait, je l'avais énervé au plus haut point, et je ne sais même plus pourquoi. Autre détail, un petit exemple au quotidien, quand on est à table, au début, je n'avais pas compris quelque chose de fondamental. Quand j'avais soif, je prenais la bouteille et je me versais un peu d'eau dans mon verre. Bon, quoi de plus naturel? Mais quoi de plus choquant pour ma belle famille? Parce qu'en fait, quand on se sert au Japon, on commence par servir les verres de ses voisins. Et ensuite, on pose la bouteille. Et les voisins comprennent, en voyant notre verre vide, qu'en fait, on avait soif. Et à ce moment-là, eux-mêmes prennent la bouteille et vous servent. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre, parce que Mariko ne me l'a pas dit tout de suite. Rétrospectivement, après 30 ans de vie commune, je me rends compte à quel point j'ai dû faire souffrir mes beaux-parents. Mais il y a tellement de politesse, tellement d'expressions de respect au quotidien, que c'est très difficile de se mettre en colère contre un Japonais. Mais, très clairement, cette éducation au respect de l'autre, que je n'ai pas eue dans ma famille, si ce n'est dans les formes très basiques de politesse, c'est Mariko qui me l'a apportée, et ma belle famille. On a donc appris à se connaître, à se respecter, à s'aimer. Alors, mon beau-père est décédé l'été dernier. On a planté un cerisier en son honneur dans notre jardin, qui donne en ce moment d'ailleurs beaucoup de cerises. Et ma belle-mère va arriver dans quelques jours. Donc pour 3 mois. Voilà. Europe, soli, mit, sini, sumu, sol. لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب.
C'était Cohabiter, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Clémence Gross. Merci à Claude, Eric et Mariko, à Thomas, à Elsa et à Zoé. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.